Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les représentants du culte musulman et des autres principaux cultes seront reçus par Emmanuel Macron en fin de journée. Ils échangeront notamment sur la situation sanitaire et sur la montée des actes anti-religieux. Le prisonnier palestinien Hicham Abu Awash a mis fin hier soir à 141 jours de grève de la faim contre sa détention en Israël, une décision à l'issue d'un accord favorisant sa libération le 26 février prochain. La transition démocratique s'étiole au Soudan, le constat de Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan, après la démission du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Marc Lavergne sera l'un de nos invités. Objectif, mettre la question de la lutte contre la pauvreté au premier plan de l'agenda de l'élection présidentielle en France. La Fédération des acteurs de la solidarité entend sensibiliser les candidats à l'approche de la présidentielle. Son président, Pascal Brice, sera l'un de nos invités. Les propos d'Emmanuel Macron sur les personnes non vaccinées contre le Covid-19 ont provoqué un tollé la nuit dernière à l'Assemblée nationale et la suspension de l'examen du texte sur le pass vaccinal. Les représentants des principaux cultes seront reçus par Emmanuel Macron en fin de journée. Ils échangeront notamment sur la situation sanitaire et la montée des actes anti-religieux. Parmi les personnalités présentes, le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, qui s'entretiendra avant cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur en charge des relations avec les cultes. Le CFCM appelle les mosquées de France à mettre en place des protocoles de prévention adaptés à la situation exceptionnelle liée à la propagation des cas de Covid-19. Le prisonnier palestinien Hicham Abu Awash a mis fin hier soir à 141 jours de grève de la faim contre sa détention en Israël. Une décision à l'issue d'un accord favorisant sa libération le 26 février prochain. Son avocat annonce ainsi que sa détention administrative de 6 mois ne sera pas reconduite. Abu Awash, membre du groupe armé palestinien du djihad islamique et soupçonné par Israël d'être lié à des attaques contre le pays, avait commencé sa grève de la faim en août dernier pour protester contre sa détention sans inculpation au procès depuis octobre 2020. Les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège appellent les militaires soudanais à ne pas nommer unilatéralement un premier ministre en remplacement du civil Abdallah Hamdok, qui a démissionné dimanche dernier. Ces pays assurent dans une déclaration commune qu'ils ne soutiendront pas un premier ministre ou un gouvernement nommé sans l'implication d'un grand panel d'acteurs civils. En gros plan justement sur la situation au Soudan après la démission d'Abdallah Hamdok, cela alors que les manifestations hostile au pouvoir militaire reste violemment réprimé. Entretien avec Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Soudan.
Dans une certaine mesure, cette transition démocratique, elle a été déjà à plusieurs reprises menacée et diminuée dans ses espérances. C'est-à-dire que depuis le coup d'État du 25 octobre de l'année dernière, les militaires ont repris effectivement le pouvoir. C'est eux qui ont finalement emprisonné le Premier ministre là, qui l'ont ressorti de sa résidence surveillée pour le remettre en selle. Et finalement, on a une transition démocratique qui s'étiole. Et je pense qu'elle s'étiole parce que depuis le début, il y a eu un désaccord entre les militaires et les civils, pour dire les choses simplement, sur les objectifs à atteindre. C'est-à-dire que pour les militaires, il s'agissait simplement de se débarrasser de Omar al-Béchir, qui était là depuis 30 ans et qui devenait gênant. Il s'agissait de faire du Omar al-Béchir sans Omar al-Béchir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a ces lieutenants qui reprennent la totalité du pouvoir, qui ont essayé de reprendre le pouvoir avec une marionnette qui était le Premier ministre Abdallah Hamdok. Celui-ci ne veut plus jouer ce rôle. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut supposer que l'armée va choisir un nouveau Premier ministre pour essayer de maintenir cette façade derrière le rétablissement de l'armée dans tous ses pouvoirs.
Abdallah Hamdok, qui était d'ailleurs conspué par les manifestants.
En effet, il était pris en sandwich, si vous voulez, entre d'un côté les militaires qu'il était censé réduire, et il était censé mener à bout une transition démocratique que lui-même espérait, sans aucun doute, avec sincérité. Et puis la base, qui était beaucoup plus clairvoyante que lui dans le rapport de force finalement, c'est-à-dire la jeunesse, c'est-à-dire les syndicats, c'est-à-dire l'ensemble de la population finalement, qui voyait bien que les militaires continuaient à tirer sur les manifestants, à tuer, et qu'il y avait un état profond soudanais qui était très solide et qui finalement était soutenu aussi par les puissances étrangères et qui ne voulait rien lâcher.
Cette démission aura-t-elle un impact sur l'immunité des militaires avec en parallèle cette répression des manifestations?
Oui, l'immunité des militaires, bien entendu. Je pense que la communauté internationale a une lourde responsabilité dans cette affaire. Quand on parle de communauté internationale, on parle d'un côté des Occidentaux, des Américains, de la France en particulier, qui ont été assez aveugles ou myopes en tout cas sur le rapport de force qu'il y avait et qui ont pensé pouvoir installer un régime civil et démocratique dans un pays qui était tenu depuis 30 ans par une armée et puis maintenant par des appareils de sécurité profonds et aussi par des mouvements incontrôlés de mercenaires qui sont nourris par d'autres puissances. Et donc il y a eu une sorte d'illusion d'incompétence peut-être de nos gouvernements en Europe et aux États-Unis sur le rapport de force qui se jouait au Soudan.
Ce pouvoir militaire, quel impact a-t-il sur la vie des Soudanais aujourd'hui, la mise en place de ce pouvoir?
C'est un pouvoir prédateur, donc il l'est depuis toujours, depuis au moins 30 ans, il a pris la main sur l'économie ou ce qu'il en reste, et donc ce qu'il a perdu, ce sont les puits de pétrole qui sont au sud depuis l'indépendance du Sud en 2011, et donc l'économie locale s'est effondrée. Il faut maintenant ce que souhaitent les pays du Golfe, c'est-à-dire des investissements étrangers pour relancer l'économie qui leur permettent, eux, de pouvoir rétablir leur niveau de vie, leur confort. Il ne faut pas oublier que l'armée touchait 80% du budget national avant ce coup d'État d'avril 2019. Donc, je pense que là, l'armée, elle va essayer d'obtenir une crédibilité en gardant un premier ministre civil, si vous voulez, mais en tirant les ficelles de manière à ce que ses mandataires soient satisfaits et stabilisés, comme elle le fait là, en tirant sur la foule, en tirant sur les forces de la liberté du changement.
Et quel est le poids de la société civile aujourd'hui au Soudan? Est-ce qu'il existe des figures de la société civile qui ont la confiance, notamment des manifestants?
Certainement, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que, à la différence de ce qui s'est passé dans les printemps arabes, il y a une société civile soudanaise extrêmement structurée, extrêmement solide et déterminée, des partis politiques qui ont survécu à 30 ans de dictature et qui renaissent, et puis des syndicats professionnels qui ont organisé toutes les manifestations, qui ont géré aussi la situation des blessés, et toute cette organisation de manifestations où l'armée a été obligée de bloquer les ponts sur le Nil bleu et sur le Nil blanc pour empêcher les gens de circuler, mais un courage extraordinaire et une discipline aussi qu'il y a dans la société qui fait contraste avec ce gouvernement qui était fait de vieux chevaux de retour, je dirais, qui était incompétent, impuissant et qui passait leur temps à bavarder pour essayer de dégager une transition démocratique. Mais la société civile est extrêmement forte et c'est là qu'il y a des capacités de résistance face à l'armée encore aujourd'hui.
Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan. Une première mise en examen 18 ans après le crash d'un Boeing 737 au large de Sharm el-Sheikh en Égypte. Elle touche l'ancien président de la compagnie égyptienne Flash Airlines. L'accident en 2004 avait fait 148 morts, dont 134 Français. La France condamne la reprise des frappes du régime syrien et de son allié russe dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, en particulier sur des infrastructures humanitaires. Paris appelle à une désescalade immédiate. Les attaques continues du régime syrien et de la Russie contre des infrastructures civiles sont des violations flagrantes du droit international, selon les mots de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Notre objectif est de mettre la question de la lutte contre la pauvreté au premier plan de l'agenda de l'élection présidentielle. Voilà ce qu'indique le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Cette fédération rassemble plus de 900 structures impliquées dans la lutte contre l'exclusion. Elle entend sensibiliser les candidats à l'approche de la présidentielle. Entretien avec son président, Pascal Brice.
Au fond, notre objectif, c'est en ce début d'année 2022, c'est de mettre la question de la lutte contre la pauvreté au premier plan de l'agenda de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que Nous souhaitons faire partager aux différents candidats une analyse de la situation de la pauvreté dans le pays, qui est que nous avons encore en France plus de 10 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Et donc, même si celle-ci n'a pas explosé avec la crise sanitaire, parce que le gouvernement a fait ce qu'il fallait, elle reste très élevée, très profonde, elle s'enracine chez les jeunes, chez les femmes seules avec enfants, chez les chômeurs de longue durée, dans certains quartiers, dans certaines campagnes. Et donc, il s'agit d'abord pour nous faire en sorte qu'il y ait cette prise de conscience de la part des candidats à l'élection présidentielle que la pauvreté est là et qu'il faut faire preuve de volontarisme pour la combattre.
Et vous demandez des mesures d'urgence, hein, comme par exemple une hausse du revenu de solidarité active.
Oui, nous allons en cette fin de semaine présenter nos propositions qui concernent effectivement à la fois des mesures d'urgence, comme vous le disiez, revaloriser le revenu de solidarité active, augmenter la prime, le chèque énergie pour les ménages qui sont frappés de précarité énergétique, mais nous allons aussi porter des actions très volontaristes et très structurelles. Nous pensons par exemple qu'il faut rapidement aboutir sur un revenu universel d'activité qui permette aux personnes de sortir de la pauvreté et qui soit simple d'accès. Nous pensons aussi qu'il faut d'urgence relancer le logement social qui est en panne, comme vous le savez, dans le pays. Nous pensons aussi qu'il faut d'urgence promouvoir, reconnaître, valoriser le travail social, parce que nous manquons de travailleurs sociaux dans ce pays. Toute une série de propositions de manière à ce que, encore une fois, face à une pauvreté qui s'enracine dans le pays, nous puissions collectivement faire preuve de volontarisme, parce que la perspective, au fond, certains la dessinent déjà, c'est le plein emploi. Mais est-ce que c'est un plein emploi? Vous savez qu'aujourd'hui, on manque de travailleurs dans les entreprises. Et dans le même temps, il y a une pauvreté qui reste extrêmement importante, plus de 16% de la population. Donc ça, c'est une perspective que nous n'acceptons pas. Et nous pensons qu'il faut redoubler de volontarisme dans la lutte contre la pauvreté. Et nous voulons sensibiliser les candidats et les candidates à l'élection présidentielle pour cela.
Et demandez-vous une automatisation du versement des aides sociales? De nombreuses personnes qui ont droit à des aides n'y ont pas recours. Et ce sont souvent justement les personnes les plus isolées, celles qui en ont le plus besoin.
Vous avez raison d'y insister. C'est un point essentiel. Il y a les droits qui existent. Il y a la nécessité d'augmenter ce socle de droits, par exemple faire en sorte que les jeunes aient droit à un revenu, à un accompagnement, mais la question est aussi celle de l'accès, du non-recours, parce que les procédures sont souvent trop bureaucratiques. Parce que quand vous êtes dans la pauvreté, dans la marginalité ou dans l'exclusion, vous avez encore plus de difficultés à accéder aux prestations et aux politiques publiques. Et donc effectivement, nous souhaitons, à travers notamment le revenu universel d'activité qui avait été annoncé, travaillé, interrompu, repris, que l'on puisse avoir des minima sociaux simplifiés, revalorisés, mais aussi simplifiés de manière à ce qu'on ait effectivement une possibilité réelle pour les personnes les plus exclues d'accéder tout simplement à ces prestations.
Et ça, c'est une possibilité, c'est-à-dire que l'État le permet.
Vous vous en souvenez, à travers le revenu universel d'activité, une perspective qui avait été ouverte, qui a été interrompue, les travaux ont repris, nous souhaitons maintenant que cette perspective soit réouverte de manière à ce que très vite, on ait des minima sociaux non seulement revalorisés, mais aussi simplifiés, qui permettent un accès plus rapide. C'est possible, les discussions ont eu lieu, les pistes, les solutions existent, il faut les mettre en œuvre.
Ce quinquennat a été marqué notamment par la stratégie de lutte contre la pauvreté. C'était en septembre 2018. Avez-vous constaté une évolution concernant la pauvreté suite à ce plan présenté par l'exécutif?
Si vous voulez, ce que l'on constate à travers ces cinq années, c'est que des mesures ont été prises, alors notamment pour faire face à la crise sanitaire et à son impact social. Ça a permis, encore une fois, d'éviter une explosion de la pauvreté, avec notamment un plan d'hébergement d'urgence de 200 000 places, qui est un niveau qui n'avait jamais été atteint, avec des aides d'urgence, avec bien sûr le chômage partiel, toute une série de mesures qui ont permis qu'il n'y ait pas d'explosion de la pauvreté. Mais le constat que nous faisons, c'est que la pauvreté reste à des niveaux très élevés, près de 10 millions de personnes, qu'elle a même augmenté, on le voit au nombre d'allocataires du RSA, et que donc il faut aller beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus durable. Je parlais du travail social. C'est aussi pour ça que nous proposons, par exemple, une loi de programmation pluriannuelle pour l'action auprès des personnes qui sont à la rue, l'hébergement et le logement. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions, dans la durée du prochain quinquennat, avoir des objectifs pour sortir les gens de la rue, leur permettre d'accéder à un hébergement et surtout à un logement, se donner les moyens de cela, et aussi en termes de méthode, parce que c'est ce qui manque aussi, avoir une capacité à travailler depuis et à partir des besoins sociaux dans les territoires. Nous sommes dans un pays qui fonctionne encore trop de manière hyper centralisée et verticale. Il faut que, à la fois, l'État, les collectivités locales, les associations puissent construire des partenariats territorialisés pour répondre à cette pauvreté qui n'a pas explosé, mais qui s'enracine à des niveaux très élevé dans le pays.
Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice. Les propos d'Emmanuel Macron sur les personnes non vaccinées contre le Covid-19 ont provoqué une nouvelle suspension de l'examen du texte sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale la nuit dernière. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, le chef de l'État a répondu à une remarque d'une lectrice sur les personnes non vaccinées qui occupent à 85% les réanimations. Elle a souligné que des personnes vaccinées, atteintes de cancer, se voient du coup reporter les opérations. Réponse du président français, c'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout, selon le propos d'Emmanuel Macron. Des propos qui provoquent un tollé dans l'opposition. Fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Thomas Porte, membre du Parlement de l'Union Populaire qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon, président de l'Observatoire National de l'Extrême Droite, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.